Bienvenue dans Actualité du Pape. Commençons par la première audience générale du mois de mars, donnée place Saint-Pierre et 10e catéchèse du pape François consacrée au vice. En cette 4e semaine de carême, ce mercredi 6 mars, le pape François a invité à lutter contre l'orgueil, le plus radical et premier des péchés, auquel nous devons opposer l'humilité, seule voie du salut. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre catéchèse sur les vices et les vertus, nous abordons aujourd'hui le dernier des vices, l'orgueil. Les anciens Grecs le définissaient par un mot que l'on pourrait traduire par « splendeur excessive ». En fait, l'orgueil est l'auto-exaltation, la prétention, la vanité. Le terme apparaît également dans cette série de vices que Jésus énumère pour expliquer que le mal vient toujours du cœur de l'homme. L'orgueilleux est celui qui se croit beaucoup plus que ce qu'il est en réalité. Celui qui s'agite pour être reconnu comme le plus grand et plus grand que les autres, qui veut toujours voir ses propres mérites reconnus et qui méprise les autres en les considérant comme inférieurs. D'après cette première description, nous voyons que le vice de l'orgueil est très proche de celui de la vaine gloire, que nous avons déjà présenté la dernière fois. Cependant, si la vaine gloire est une maladie de l'ego humain, elle reste une maladie infantile comparée aux ravages que peut provoquer l'orgueil. En analysant les folies de l'homme, les moines de l'Antiquité reconnaissaient un certain ordre dans la séquence des mots. On part des péchés les plus grossiers, comme la gourmandise, pour arriver aux monstres les plus inquiétants. De tous les vices, l'orgueil est grande reine. Ce n'est pas un hasard si dans la Divine Comédie, Dante le place dans la toute première case du purgatoire. Ceux qui cèdent à ce vice sont loin de Dieu. Et l'éradication de ce mal exige du temps et des efforts, plus que tout autre combat auquel est appelé le chrétien. En réalité, c'est dans ce mal que réside le péché radical, la prétention absurde d'être comme Dieu. Le péché de nos ancêtres, raconté dans le livre de la Genèse, est en fait un péché d'orgueil. Le tentateur leur dit « Quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu ». Les auteurs de spiritualité sont plus attentifs à décrire les répercussions de l'orgueil dans la vie quotidienne, à illustrer comment il ruine les relations humaines, à souligner comment ce mal empoisonne le sentiment de fraternité qui devrait au contraire réunir les hommes. Voici donc la longue liste des symptômes qui révèlent que l'on a succombé au vice de l'orgueil. C'est un mal qui a une apparence physique évidente. L'orgueilleux est hautain. Il a la nuque raide. C'est-à-dire qu'il a un cou raide qui ne se plie pas. C'est un homme prompt à juger avec mépris. Pour un rien, il porte des jugements irrévocables sur les autres, qui lui paraissent irrémédiablement ineptes et incapables. Dans son arrogance, il oublie que Jésus, dans les évangiles, nous a donné très peu de préceptes moraux. Mais qu'il a été intransigeant sur l'un d'entre eux, ne jamais juger. On se rend compte qu'on a affaire à un orgueilleux lorsque lui faisant une petite critique constructive ou une remarque tout à fait anodine, il réagit de manière exagérée, comme si on avait lésé sa majesté. Il entre dans toute sa fureur, crie, rompt les relations avec les autres de manière rancunière. Il n'y a pas grand-chose à faire avec une personne malade d'orgueil. Il est impossible de lui parler et encore moins de le corriger, car après tout, il n'est plus présent à lui-même. Il faut simplement être patient avec lui, car un jour son édifice s'écroulera. Un proverbe italien dit « L'orgueil va à cheval et revient à pied ». Dans les évangiles, Jésus a affaire à beaucoup de gens orgueilleux, et il est souvent allé débusquer ce vice même chez des personnes qui le cachaient très bien. Pierre fait étalage de sa fidélité à toute épreuve, « Même si tous t'abandonnent, moi non ». Mais bientôt il fera l'expérience d'être comme les autres, apeuré lui aussi devant une mort qu'il n'imaginait pas si proche. Ainsi le deuxième Pierre, celui qui ne lève plus le menton mais pleure des larmes salées, sera soigné par Jésus et sera finalement apte à porter le poids de l'Église. Avant, il affichait une présomption qu'il valait mieux ne pas afficher. Maintenant, en revanche, il est un disciple fidèle que, comme le dit la parabole, le maître peut mettre à la tête de tous ses biens. Le salut passe par l'humilité, véritable remède à tout acte d'orgueil. Dans le Magnificat, Marie chante le Dieu qui, par sa puissance, disperse les orgueilleux dans les pensées malades de leur cœur. C'est inutile de voler quelque chose à Dieu, comme l'espèrent les orgueilleux, parce qu'en fin de compte, lui veut tout donner. Et pourquoi l'apôtre Jacques, s'adressant à sa communauté blessée par des luttes intestines nées de l'orgueil, écrit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce ». C'est pourquoi, chers frères et sœurs, profitons de ce carême pour lutter contre notre orgueil. En ce premier Angélus de mars, le pape François s'est arrêté sur le contraste entre la maison et le marché, qui illustre deux manières de se tenir devant le Seigneur. L'une traduisant une relation distante et commerciale avec Dieu, et l'autre beaucoup plus proche et confiante. S'appuyant sur l'évangile de ce dimanche, le pape François a invité les fidèles à faire en nous et autour de nous plus de maisons et moins de marchés, tout d'abord avec Dieu, puis en répandant la fraternité. En dépit de son état de santé légèrement grippal qui l'a poussé à annuler quelques-unes de ses audiences en début de semaine, le Saint-Père a présidé la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Avant cela, François s'est appesanti sur l'antithèse présente dans l'évangile de ce troisième dimanche de carême, qui nous montre une scène dure. Jésus qui chasse les marchands du temple parce qu'ils font de la maison de Dieu un marché. C'est précisément sur ce contraste entre maison et marché que le pape François s'est arrêté dans son exhortation dominicale. Poursuivant, le pape François a expliqué les deux manières différentes de se tenir devant le Seigneur qui découle de ce contraste. Si dans le temple, compris comme un marché, il suffisait d'acheter un agneau, de le payer, de le consommer sur les braises de l'autel pour être en règle avec Dieu, dans le temple considéré plutôt comme la maison, c'est le contraire qui se produit. On va à la rencontre du Seigneur, on s'unit à lui et à ses frères, on partage ses joies et ses peines. Et encore a-t-il ajouté, « Au marché, on marchande sur les prix, à la maison, on ne calcule pas. Au marché, on cherche son propre intérêt, à la maison, on donne gratuitement. » C'est ce qui justifie, selon le pape François, le caractère dur de Jésus aujourd'hui, qui n'accepte pas que le temple-marché remplace le temple-maison, que la relation avec Dieu soit distante et commerciale, au lieu d'être proche et confiante, que les comptoirs de vente prennent la place de la table familiale, que les prix prennent la place des accolades et les pièces de monnaie, celles de la tendresse. Car cela, a-t-il fustigé, crée une barrière entre Dieu et l'homme et entre frères et frères, alors que le Christ est venu apporter la communion, la miséricorde et la proximité. Devant les milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape François a exhorté à faire en nous et autour de nous plus de maisons et moins de marchés. Et ce tout d'abord envers Dieu, a-t-il souligné, en priant beaucoup, comme des enfants qui frappent inlassablement et avec confiance à la porte du Père, et non comme des marchands avares et méfiants. Puis, en répandant la fraternité. Il s'agit d'une nécessité, a martelé le pape François, au regard du silence embarrassant, isolant parfois même hostile que l'on rencontre dans de nombreux endroits de ce monde. Au terme de son exhortation, l'évêque de Rome invitait les fidèles à revenir sur le fondement de leur relation avec Dieu à travers quelques questions. Avant tout, comment est ma prière? Est-ce un prix à payer ou un moment d'abandon confiant? Où je ne regarde pas ma montre? Et comment sont mes relations avec les autres? Est-ce que je sais donner sans attendre en retour? Est-ce que je sais faire le premier pas pour briser les murs du silence et le vide de la distance? A-t-il demandé, en se tournant vers la Mère du Seigneur, afin qu'elle nous aide à faire maison avec Dieu, entre nous et autour de nous. Dans une interview accordée aux médias du Vatican, le président de l'Académie pontificale de théologie réitère les raisons de l'incompatibilité entre la foi catholique et la pensée maçonnique. Monseigneur Antonio Stagliano souligne que notre idée de Dieu n'est pas dictée par la raison humaine, mais par la révélation. Les fidèles qui adhèrent aux loges sont en état de péché grave. Ils ne peuvent pas recevoir la communion, a-t-il affirmé. L'hérésie maçonnique est une hérésie fondamentalement alignée sur l'hérésie arienne. C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'Académie pontificale de théologie, évoquant clairement aux médias du Vatican l'inconciliabilité entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Après tout, a déclaré Monseigneur Antonio Stagliano, c'est précisément Arius qui s'imaginait que Jésus était un grand architecte de l'univers, comme la franc-maçonnerie considère l'être suprême, niant la divinité du Christ. C'est pourquoi le Concile de Nicée, dont nous célébrons bientôt le 1500e anniversaire, affirme avec force la vérité sur Jésus qui est engendré, non pas créé. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et c'est précisément l'idée de l'architecte de l'univers ou du grand horloger défendu par la franc-maçonnerie qui est incompatible avec l'idée catholique de Dieu. Cette idée, a expliqué Monseigneur Stagliano, est le fruit d'un raisonnement humain qui tente d'imaginer un Dieu, alors que le Dieu des catholiques est le fruit de la révélation même de Dieu dans le Christ Jésus. Il s'agit essentiellement du fruit d'un événement historique, a-t-il ajouté, au cours duquel Dieu s'est fait chair, s'est approché des hommes, a parlé à tous les êtres humains et les a destinés à son salut. Même le concept de fraternité exprimé par la franc-maçonnerie est à des années-lumière de celui de la foi catholique. Le président de l'Académie pontificale de théologie soutient que notre fraternité est établie sur le sacrement de l'amour de Dieu en Jésus. Elle est établie sur l'Eucharistie, et pas seulement sur l'idée générique d'être frère. Le même raisonnement, ajouté l'évêque, peut être appliqué à la charité chrétienne, qui n'a rien à voir avec la philanthropie maçonnique. La charité chrétienne correspond à l'événement historique d'un Dieu mort et ressuscité pour nous, et qui demande à ses enfants de ne pas être simplement philanthropes, mais d'être éventuellement crucifiés par amour. Le président de l'Académie pontificale de théologie a souligné l'incompatibilité totale entre être catholique et adhérer à la franc-maçonnerie, en rappelant qu'au sein de la franc-maçonnerie se développent des intrigues de pouvoir occulte qui sont en contradiction avec l'action chrétienne. En somme, lorsque nous parlons d'inconciliabilité, nous nous référons à des contradictions profondes. On ne peut même pas faire appel à l'opposition polaire du théologien Romano Guardini pour dire qu'ils peuvent être ensemble. L'ésotérisme, constitué de doctrines spirituelles très souvent secrètes et réservées aux initiés, qui imprègne l'enseignement maçonnique, constitue un autre élément important de la distance entre catholiques et francs-maçons. Même dans le catholicisme, précise Monseigneur Stagliano, on parle de mystère. Cependant, les évangiles nous disent que le mystère caché au cours des siècles ne cesse pas d'être mystère, mais qu'il cesse d'être caché. Car le mystère caché au cours des siècles a été révélé. Retraçant la condamnation constante de la franc-maçonnerie par l'Église au cours des siècles, l'évêque a tenu à rappeler la dernière réponse du dicastère pour la doctrine de la foi à un évêque des Philippines, datant du 13 novembre 2023 et approuvée par le pape François, dans laquelle il réaffirme que l'adhésion active reste interdite. Les fidèles qui adhèrent aux loges sont en état de péché grave et ne peuvent absolument pas avoir accès à la communion, a-t-il conclu. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, voici le message du Saint-Père, le pape François, pour la première journée mondiale des enfants qui se déroulera à Rome les 25 et 26 mai 2024. Chers enfants, votre première journée mondiale approche. Elle aura lieu à Rome les 25 et 26 mai. C'est pourquoi j'ai pensé à vous envoyer un message. Je serai heureux que vous puissiez le recevoir. Et je remercie tous ceux qui contribueront à le mettre à votre disposition. Je l'adresse avant tout à chacun de vous personnellement, à toi, cher enfant, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, comme la Bible nous l'enseigne, et comme Jésus l'a démontré tant de fois. En même temps, j'adresse ce message à tous, parce que vous êtes tous importants, et parce qu'ensemble, proches et lointains, vous manifestez le désir de chacun d'entre nous de grandir et de se renouveler. Vous nous rappelez que nous sommes tous des enfants et des frères, et que personne ne peut exister sans quelqu'un qui l'ait mis au monde, ni grandir sans avoir d'autres personnes à qui donner de l'amour et de qui recevoir de l'amour. Ainsi, vous tous les enfants, qui êtes la joie de vos parents et de vos familles, Vous êtes aussi la joie de l'humanité et de l'Église, dans lesquelles chacun est comme un maillon d'une très longue chaîne qui s'étend du passé à l'avenir et qui couvre toute la terre. C'est pourquoi je vous recommande de toujours écouter attentivement les histoires des grands, de vos mamans, de vos papas, de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents. Et en même temps, de ne pas oublier ceux d'entre vous, encore si jeunes, qui luttent déjà contre la maladie et les difficultés, à l'hôpital ou à la maison, ceux qui sont victimes de la guerre et de la violence, ceux qui souffrent de la faim et de la soif, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui sont contraints d'être soldats ou de fuir comme réfugiés, séparés de leurs parents, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, ceux qui sont victimes de bandes criminelles, de la drogue ou d'autres formes d'esclavage, des abus. Bref, tous ces enfants dont l'enfance est aujourd'hui encore cruellement violée. Écoutez-les. Écoutons-les vraiment, car dans leur souffrance, ils nous parlent de la réalité. Les yeux purifiés par les larmes et avec ce tenace désir de bien qui naît dans le cœur de ceux qui ont vraiment vu combien le mal est horrible. Mes petits amis, pour nous renouveler, renouveler le monde, il ne suffit pas que nous soyons ensemble entre nous. Il est nécessaire de rester unis à Jésus. De lui, nous recevons beaucoup de courage. Il est toujours proche, son esprit nous précède et nous accompagne sur les chemins du monde. Jésus nous dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Ce sont les paroles que j'ai choisies comme thème de votre première journée mondiale. Ces mots nous invitent à devenir aussi agiles que des enfants pour saisir la nouveauté suscitée par l'Esprit en nous et autour de nous. Avec Jésus, nous pouvons rêver d'une humanité nouvelle et nous engager dans une société plus fraternelle et attentive à notre maison commune, en commençant par des choses simples, comme saluer les autres, demander la permission, s'excuser, dire merci. Le monde se transforme d'abord par de petites choses, sans avoir honte de ne faire que de petits pas. Au contraire, notre petitesse nous rappelle que nous sommes fragiles et que nous avons besoin les uns des autres, comme les membres d'un seul corps. Et ce n'est pas tout. En effet, mes chers enfants, nous ne pouvons pas être heureux tout seuls parce que la joie grandit dans la mesure où nous la partageons. Elle naît de la gratitude pour les dons que nous avons reçus et que nous partageons à notre tour avec les autres. Lorsque nous gardons pour nous seuls ce que nous avons reçu ou que nous faisons des caprices pour obtenir tel ou tel cadeau, nous oublions en fait que le plus grand cadeau, c'est nous-mêmes, les uns, pour les autres. Nous sommes le don de Dieu. Les autres dons sont utiles, oui, mais seulement pour être ensemble. Si nous ne les utilisons pas pour cela, nous serons toujours insatisfaits et il n'y en aura jamais assez. Au contraire, si l'on est ensemble, tout est différent. Pensez à vos amis. Comme il est beau d'être avec eux, à la maison, à l'école, en paroisse, à l'aumônerie, partout de jouer, de chanter, de découvrir de nouvelles choses, de s'amuser tous ensemble, sans laisser personne de côté. L'amitié est très belle et ne grandit que de cette façon, dans le partage et le pardon, avec patience, courage, créativité, imagination, sans peur et sans préjugés. Et maintenant, je veux vous confier un secret important. Pour être vraiment heureux, il faut prier, beaucoup prier, tous les jours, parce que la prière nous relie directement à Dieu. Elle remplit notre cœur de lumière et de chaleur et nous aide à tout faire avec confiance et sérénité. Jésus aussi priait toujours le Père. Et savez-vous comment il l'appelait? Dans sa langue, il l'appelait simplement « Abba », ce qui signifie « Papa ». Faisons-le nous aussi. Nous le sentirons toujours proche. Jésus lui-même nous l'a promis lorsqu'il a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Chers enfants, vous savez qu'au mois de mai, nous nous retrouverons nombreux à Rome avec vous qui viendrez du monde entier. Alors, pour bien nous préparer, je vous recommande d'utiliser en priant les mêmes paroles que celles de Jésus, le Notre Père. Récitez-le, chaque matin et chaque soir, et aussi en famille, avec vos parents, vos frères, vos sœurs et vos grands-parents. Non pas comme une formule, non, en pensant aux paroles que Jésus nous a enseignées. Jésus nous appelle et veut que nous soyons avec lui les protagonistes de cette journée mondiale, les bâtisseurs d'un monde nouveau, plus humain, plus juste et plus pacifique. Lui qui s'est offert sur la croix pour nous rassembler tous dans l'amour, lui qui a vaincu la mort et nous a réconciliés avec le Père, il veut continuer son œuvre dans l'Église à travers nous. Pensez-y, en particulier ceux d'entre vous qui se préparent à recevoir la première communion. Chers amis, Dieu, qui nous aime depuis toujours, a pour nous le regard du papa le plus aimant et de la maman la plus tendre. Il ne nous oublie jamais et nous accompagne chaque jour et nous renouvelle par son esprit. Avec la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, prions avec ces mots. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée dans les visages des enfants de la terre. Viens, Jésus, qui fait toutes choses nouvelles, qui est le chemin qui nous conduit au Père. Viens et reste avec nous. Amen. L'Académie pontificale pour la vie a publié une déclaration soutenant la position de la Conférence des évêques de France au sujet de l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. L'Académie estime que la protection de la vie humaine est le premier objectif de l'humanité et appelle tous les gouvernements et toutes les traditions religieuses à s'engager pour la protection de la vie. La défense de la vie n'est pas une idéologie, c'est une réalité humaine qui touche tous les chrétiens, précisément parce que les chrétiens et parce que humains. Rappelant les propos du pape François lors de l'audience générale du 25 mars 2020, l'Académie pontificale pour la vie a affiché publiquement son soutien à la Conférence des évêques de France dans une déclaration publiée lundi 4 mars. En effet, le 29 février, la Conférence des évêques de France a réaffirmé que l'avortement, qui demeure une atteinte à la vie en son commencement, ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes. Elle regrette que le débat engagé n'ait pas évoqué les dispositifs d'aide à celles et ceux qui voudraient garder leur enfant. Voici le communiqué de la Conférence des évêques de France. Comme catholiques, nous aurons toujours à rester des serviteurs de la vie de tous et de chacun, de la conception à la mort, des artisans du respect de tout être humain qui est toujours un don fait à tous les autres, à soutenir ceux et celles qui choisissent de garder leur enfant même dans des situations difficiles. Et nous cherchons des voies nouvelles pour cela, à entourer de notre respect et de notre compassion ceux et celles qui ont recours à l'avortement. Demandons-en humblement et instamment la grâce. Prions surtout pour que nos concitoyens retrouvent le goût de la vie, de la donner, de la recevoir, de l'accompagner, d'avoir et d'élever des enfants. L'Académie pontificale pour la vie rappelle que précisément, à l'ère des droits humains universels, il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine. L'Académie pontificale pour la vie lance un appel à tous les gouvernements et à toutes les traditions religieuses pour qu'ils fassent de leur mieux, afin que dans cette phase de l'histoire, la protection de la vie devienne une priorité absolue, avec des mesures concrètes en faveur de la paix et de la justice sociale, avec des mesures efficaces pour l'accès universel aux ressources, à l'éducation, à la santé. Les situations de vie particulières et les contextes difficiles et dramatiques de notre époque doivent être traités en se fondant sur un droit qui vise avant tout à protéger les plus faibles et les plus vulnérables. La protection de la vie humaine est le premier objectif de l'humanité et ne peut se développer que dans un monde sans conflit où la science, la technologie et l'industrie sont au service de la personne humaine et de la fraternité. Pour l'Église catholique, la défense de la vie n'est pas une idéologie, c'est une réalité. Une réalité humaine qui touche tous les chrétiens précisément parce que chrétiens et parce qu'humains. Il s'agit d'agir sur le plan culturel et éducatif pour transmettre aux générations futures l'aptitude à la solidarité, aux soins, à l'accueil, en sachant bien que la culture de la vie n'est pas le patrimoine exclusif des chrétiens, mais qu'elle appartient à tous ceux qui, se prodiguant pour l'édification de relations fraternelles, reconnaissent la valeur propre de chaque personne, même quand elle est fragile et qu'elle souffre. En ce mois de mars, le pape François demande de prier pour les nouveaux martyrs. Dans son intention de prière pour le mois de mars, le Saint-Père met en avant les nouveaux martyrs, témoins du Christ. Le pape François demande aux fidèles de prier pour que les nouveaux martyrs de notre temps, afin qu'ils fécondent l'Église de leur courage et de leur élan missionnaire, le courage des martyrs. Leur témoignage est une bénédiction pour tous, souligne le Saint-Père dans son message. Voici le texte de l'intention de prière du pape François. Ce mois-ci, j'aimerais vous raconter une histoire qui reflète l'Église d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un témoignage de foi peu connu. Lors d'une visite dans un camp de réfugiés à Lesbos, un homme m'a dit « Père, je suis musulman. Ma femme était chrétienne. Des terroristes sont arrivés dans notre pays. Après nous avoir regardés, ils nous ont demandé notre religion. Ils ont vu que ma femme portait un crucifix et ils lui ont demandé de le jeter par terre. Elle ne l'a pas fait et ils l'ont égorgé devant moi. Ça s'est passé vraiment. Je sais que cet homme n'éprouvait aucune rancune. Il se concentrait sur l'exemple d'amour de sa femme, un amour pour le Christ qui l'a amené à accepter et à rester fidèle jusqu'à la mort. Frères et sœurs, il y aura toujours des martyrs parmi nous. C'est le signe que nous sommes sur le bon chemin. Quelqu'un qui s'y connaît m'a dit qu'il y a aujourd'hui plus de martyrs qu'au tout début du christianisme. Le courage des martyrs, leur témoignage est une bénédiction pour tous. Prions pour que ceux qui risquent leur vie pour l'Évangile dans différentes parties du monde fécondent l'Église de leur courage et de leur élan missionnaire et soyons ouverts à la grâce du martyr. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.